Bonsoir, comment allez-vous? En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît, en juin, ne fais rien. Ne rien faire est indispensable. Nous ne pouvons pas être actifs tout le temps. Imaginons que nous sommes un élastique. Si nous sommes tendus en permanence, sans jamais revenir à notre forme initiale, eh bien, soit nous allons devenir tout flagada, soit nous allons craquer. Juin est souvent le mois, pour ceux qui étudient, où on doit donner un coup de collier. Donc, ne rien faire est terriblement culpabilisant et angoissant, au regard de tout ce qu'il y a à faire, justement. On a l'impression, comme en vélo, que si on arrête de pédaler, on va tomber. Pourtant, ne rien faire permet de mieux faire quand on fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Nous avons tellement peur que vous soyez feignants, les jeunes, qu'on vous fouette en permanence. Mais le feignant, en fait, est rare. Même celui dont on dit qu'il ne fout rien en classe. Il fait pas ce qu'on lui demande, mais il fait. Regardez votre chien ou un docu animalier. L'animal est à fond, quand il chasse, il ne regarde pas son portable, quand il joue, quand il dort, quand il drague, quand il ne fait rien, à fond. Parfois, quand une activité nous pose un problème, on en fait une autre, avec frénésie. Ça ne règle pas le problème, ça déculpabilise temporairement. Nous faisons déjà des listes de choses à faire, des listes de choses faites, plus gratifiantes mais jamais suffisantes. Faisons donc des listes de moments où nous n'avons rien fait et je commence maintenant. Hop, ça fait peur.
Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 12 ans et je voudrais savoir pourquoi on a le trac et comment le modifier. Merci.
Merci Déborah. Alors là, nous sommes nombreux à être contents que tu aies posé cette question. Docteur André-François Arcier, vous êtes président fondateur de Médecine des Arts et donc vous vous occupez de soigner des artistes. Déborah soulève cette question du trac.
L'acteur Philippe Noiret était un cavalier émérite. Et il avait le trac, comme tous les artistes, avant d'entrer sur scène. Et il aimait dire, il y a le trac du cavalier et le trac du cheval. Quand il disait ça, on peut comprendre intuitivement qu'il y a deux formes de trac. Un trac un peu élaboré, celui du cavalier, un trac plus instinctif, celui du cheval. Et le trac le plus instinctif, il faut savoir que c'est une forme d'excitation qui est nécessaire à l'action et qui est automatique. Donc, il faut penser que ce trac-là, il est normal. Le cavalier, il va pas faire souffrir le cheval parce qu'il bouge un peu. Il va apprendre à essayer de lui apprendre à maîtriser, finalement, cet instinct de survie qui fait qu'il se bouge, il a une bouffée d'adrénaline et qui fait que cette bouffée d'adrénaline, elle va être utile pour passer un concours, pour sauter des obstacles. Mais finalement, bon, des fois sur scène, c'est pas toujours utile. Et donc, le cavalier, ben, il va apprendre, finalement, à maîtriser par des méthodes souvent relaxantes, la sophrologie, par exemple, mais aussi des méthodes simplement respiratoire. Par contre, il y a le trac aussi du cavalier. Le trac du cavalier, c'est un peu différent. C'est un trac plus élaboré, plus lié finalement à nos pensées.
Il se fait un film.
Oui, voilà. Il va se dire je suis nul, aujourd'hui ça va pas passer, je sais pas comment faire, je vais faire une erreur. Et là, ce sont les pensées parasites, les pensées catastrophes qui arrivent au pire moment de sa pratique. Là, on est quand même encore, quand c'est à des petits niveaux, on est encore dans un trac, j'allais dire, raisonnable, de bon aloi. Mais par contre, ça va certainement nécessiter de travailler un petit peu ces pensées de telle façon qu'on arrive à savoir un petit peu comment on peut les ordonner d'une certaine façon et qu'elles ne gênent pas, parce que tout doit être axé finalement sur la performance. Il y a une autre chose aussi, c'est à ne pas confondre avec l'anxiété de performance.
L'anxiété de performance.
Voilà. Le trac, il survient avant, et quand l'action démarre, il va s'évanouir, s'éteindre finalement. Ça, c'est le trac qu'on doit avoir finalement pour être stimulé et pour être en symbiose avec un public. Par contre, parfois, le trac, il vient avant, pendant et parfois même après. Et là, il dérègle la performance, il nuit à la performance. Et là, on est dans un cadre pathologique. C'est pas le cas le plus fréquent, c'est 10 à 15% des cas, mais c'est un vrai problème, d'ailleurs, qui peut entraîner des problématiques difficiles pour un musicien, quel que soit son niveau. Il faut savoir que les tout petits, je me rappelle plus l'âge de Déborah, mais les plus petits ont rarement le trac, parce qu'ils voient pas toujours l'enjeu, finalement, qu'il y a derrière. Mais à l'adolescence, par exemple, ou un peu avant, alors qu'il y a des enjeux qui vont se greffer, des enjeux sociaux, le jugement des autres, qui va se greffer justement sur ce trac instinctif qui va devenir un vrai cavalier finalement avec son trac. Là, finalement, il va falloir réfléchir pour travailler avec méthode pour éliminer ces pensées parasites. Et il y a des méthodes aujourd'hui, on y arrive.
Est-ce que le cavalier peut calmer le cheval et le cheval le cavalier, puisque c'est un couple? Chacun, finalement, rassure l'autre. Merci en tout cas, docteur André-François Arcier. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, nous saurons qui a inventé les réverbères, depuis quand l'homme joue de la musique et avec quel instrument, et comment fait un drapeau pour flotter sur la Lune. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Je m'appelle Maria et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir, est-ce que les singes mangent des bananes dans la nature ?
Maria, c'est Sabrina Krief, qui est maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle et qui est spécialiste des grands singes, qui va répondre à ta question sur ce que mangent les singes dans la nature des bananes.
Alors les bananes, en fait, ne se trouvent pas dans l'environnement naturel des singes. En fait, ils vont trouver dans leur environnement des fruits sauvages. Ce sont des fruits qui n'ont pas été domestiqués, qui n'ont pas été cultivés et qui donc ne sont pas aussi sucrés, aussi juteux, aussi savoureux que ceux que l'on connaît nous. Alors, de façon générale, hein, je réponds non, les chimpanzés ou les singes ne mangent pas de bananes.
Parce qu'ils n'en ont pas.
Mais par contre, aujourd'hui, comme l'homme est de plus en plus présent, y compris dans l'habitat des singes, parfois il leur arrive de planter des bananes à proximité de l'endroit où vivent les primates. Et donc, dans ces cas-là, il peut arriver que les singes, et donc les chimpanzés par exemple, aillent piller les cultures des villageois qui vivent à côté. Et bien sûr, comme les bananes sont sucrées, sont nutritives, apportent beaucoup de calories, quand ils en ont l'occasion, les chimpanzés préfèrent les bananes aux fruits sauvages. Par contre, c'est dangereux.
C'est dangereux pour qui ?
C'est dangereux pour eux, puisque les gens gardent leur champ de bananiers et donc vont défendre leurs bananiers en jetant des pierres ou en tirant sur les animaux qui viennent leur voler le fruit de leur culture et de leur travail. Et donc, on s'est rendu compte, dans le parc national de Kibale, où je travaille, que les chimpanzés étaient capables de modifier leur comportement pour aller voler les aliments des humains. Donc, alors que les chimpanzés vivent uniquement de jour, on n'a jamais enregistré d'activité pendant la nuit des chimpanzés, eh bien, on a observé en posant des pièges caméras, hein, juste des caméras qui se déclenchent quand les chimpanzés passent, qu'ils allaient chaparder du maïs et d'autres aliments pendant la nuit. Donc ils sont capables de vraiment s'adapter et d'éviter le risque lié au pillage pour essayer d'avoir ces fruits qui sont vraiment savoureux.
Ce qui veut dire qu'ils ont pigé que la nuit, il n'y avait personne.
Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup moins dangereux. Et d'ailleurs, sur les caméras, sur les vidéos, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus détendus. On les voit beaucoup moins anxieux. Ils se mettent moins en bipédie, c'est-à-dire sur leurs pattes arrière pour essayer de repérer s'il y a des dangers. Alors que dans la journée, ils sont très, très vigilants. Et donc, vraiment, c'est un comportement qui vient de se mettre en place, qui est tout nouveau.
La vétérinaire, primatologue, maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle Sabrina Krief a écrit « Les chimpanzés des monts de la Lune » édité chez Belin Muséum.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai bas. Si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler de faire en où je serai poli pour la télé. Oh, changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Laisse-moi te chanter, aller te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, aller te faire en moi je serai poli pour la télé, mais va te faire en
Angèle, la belle voix d'Angèle, Balance ton quoi, c'est sur l'album Brol. J'aime bien ce nom de Brol. Le Brol, c'est le petit bazar que nous avons dans nos sacs à main.
Les petits bateaux sur France Inter.
J'aimerais savoir comment un drapeau planté sur la lune peut-il flotter. Merci, Oumaïma, 8 ans.
C'est nous qui te remercions, Oumaïma. Comment un drapeau planté sur la Lune peut-il flotter? Que pensez-vous de cette question, Christophe Bonal, ingénieur, expert à la direction des lanceurs du CNES et auteur de Pollution spatiale, l'état d'urgence, édité chez Belin?
C'est une excellente question, parce que bien évidemment, sur Terre, par exemple, pour qu'un drapeau flotte, mais il faut qu'il y ait du vent. Pour qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait de l'atmosphère en plus. Or, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent. Alors, pour les puristes, il y a quand même un tout petit peu d'atmosphère, très très peu. C'est une atmosphère extrêmement ténue. Il y a vraiment quelques atomes par-ci, par-là, quelques molécules, notamment de dégazage des cailloux, qui sont chauffés par le soleil. Et donc, ben, ça crée un genre de micro-atmosphère. Au total, on estime que l'atmosphère de la Lune représente 25 tonnes au total, c'est-à-dire quasiment rien. En tout cas, pas du tout assez pour faire flotter un drapeau. Donc, ben, pour qu'il flotte, il faut tricher. Et donc, il faut mettre une barre horizontale sur le drapeau. Et donc, on le voit pas bien, mais si on regarde bien, si tu regardes les photos des drapeaux des missions Apollo, tu verras qu'il y a une barre horizontale. D'ailleurs, je crois que c'était sur Apollo 15, ils ont cassé la barre. Et donc, on voit que le drapeau est pas brillant, il est à moitié bien horizontal, et puis l'autre moitié est un peu, flanche un peu, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on peut tricher. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que si on regarde les photos à plusieurs jours d'intervalle du même drapeau, ben, il a exactement les mêmes plis, parce que bien sûr, il y a rien qui l'a fait changer. Alors, il y a quand même eu deux cas particuliers. C'est le drapeau d'Apollo 11, le tout premier drapeau Apollo 11. Ben, il était planté pas très très loin du LEM, le module lunaire. Et donc, quand les astronautes ont redécollé de la Lune, le souffle de la fusée du LEM a couché le drapeau. Voilà, donc, bon, c'était pas brillant. Donc, après, les fois d'après, ils se sont dit, donc on va mettre le drapeau quand même un peu plus loin. Et donc, ils l'ont mis assez loin, et je crois que c'était sur Apollo 12, Alan Bean, qu'ils ont eu un cas qui était amusant également. Donc, dans le LEM, ils avaient fait deux sorties sur la Lune. Donc, la première, ils étaient sortis, voilà, ils avaient planté le drapeau, ils avaient passé 3 heures sur place. Puis après, ils étaient revenus dans le LEM. Le LEM, donc, ils l'avaient repressurisé de manière à mettre de l'atmosphère pour pouvoir retirer leur scaphandre et pour pouvoir dormir un peu. Puis quand ils avaient pris du repos, ils ont remis leur scaphandre et ils ont dépressurisé le LEM. Donc, pour ça, ils ont chasser l'air qui était dans le LEM de manière à pouvoir ouvrir la porte pour sortir sur la Lune. Et quand ils ont ouvert la porte, il restait encore un peu d'atmosphère. Et là, on voit le drapeau qui flotte. Et donc, juste un petit coup de vent qui venait du LEM. Mais c'était exceptionnel. Donc, si tu veux parier un jour avec quelqu'un que effectivement un drapeau a flotté sur la Lune, mais tu peux gagner.
On peut le voir, ce drapeau, bien sûr, sur Internet, ainsi que le module lunaire, d'ailleurs, évoqué par Christophe Bonal.
Bonjour, je m'appelle Charlotte et j'ai 10 ans et je voudrais savoir depuis quand l'homme joue de la musique et quel est le plus vieil instrument de musique au monde. Merci.
C'est nous qui te remercions, Charlotte. Emmanuel Bigan, auteur des Bienfaits de la musique sur le cerveau, édité chez Belin. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne en musique, cognition et cerveau. Elle est compliquée, cette question de Charlotte?
Alors, c'est une belle question, Charlotte. Ça nous intéresse pourquoi? Parce que ce qui nous intrigue, c'est de savoir quand les humains ont inventé la musique dans l'histoire de la phylogénèse, dans l'histoire des espèces, donc. Et si la musique est une invention récente, comme l'écriture, par exemple, qui est une invention très récente, récente ou si c'est une invention extrêmement ancienne. Alors on cherche, depuis peu à dire vrai, sur les sites des traces d'activité musicale. Pour être tout à fait précis, on a trouvé des flûtes qui sont taillées dans l'os des animaux et qui datent de 40 à 60 000 ans avant Jésus-Christ, sont donc très anciennes. Mais ce n'est pas parce qu'on a trouvé ces flûtes que l'histoire de la musique débute à ce moment-là.
Est-ce que c'est une flûte ou un sifflet ?
Alors, ce sont des flûtes dans le sens où elles ont comme une flûte des trous qui sont espacés de façon très précise et on est sûr que c'est pas des dents d'animaux qui, en mangeant, en croquant l'os, ont creusé ces trous. On le sait d'autant plus que les intervalles de hauteur qui sont constitués par ces flûtes sont très très précis. Ce qui nous laisse penser qu'il y avait un savoir-faire de lutherie, en quelque sorte, très ancien et qui était très précis. Elles ne sont pas du tout au hasard.
C'est génial, et donc, c'est émouvant. Hein.
Voilà, si ce savoir-faire existait 40 000 ans avant Jésus-Christ, c'est que probablement il y avait déjà, bien avant, un intérêt porté sur la musique et sur la préparation des instruments pour cette musique. Donc, les archéologues peuvent faire des hypothèses sur la datation possible des activités musicales. On a donc des stratégies pour remonter le temps, mais on a un gros problème, c'est que si les instruments ont été faits dans des matériaux fragiles, de la peau d'animal par exemple, ou du bois pour des percussions, ils vont avoir disparu depuis très longtemps, donc on ne pourra plus les retrouver. Donc si ces instruments sont très 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 anciens, on aura du mal à le savoir. Donc on a d'autres stratégies pour essayer de répondre à cette question. Probablement, le premier instrument, c'était la voix. Et là, on n'aura pas de traces immédiates, mais on peut le faire par déduction. Et il y a tout un raisonnement complexe, scientifique, qui permet d'imaginer que la musique pourrait remonter à beaucoup plus que 40 000 ans avant Jésus-Christ, même si là, maintenant, on en a des preuves, mais probablement 200 000 ans, voire plus.
Connaissez-vous ces orchestres sans instruments de musique ? Ils sifflent, ils se tapent sur les joues, sur les dents, sur la tête, ils claquent leurs doigts et chantent bien sûr. Il faut le voir pour croire qu'il n'y a pas d'instrument de musique. C'est tout à fait extraordinaire.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be wrong. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Dans le premier film de Mary Poppins, l'ami de Mary Poppins est ramoneur. Dans le deuxième film de Mary Poppins, qui est sorti cet hiver, 2018, l'ami de Mary Poppins est allumeur de réverbères.
Bonjour, je m'appelle Sam, j'ai 5 ans et je voudrais savoir qui a inventé les réverbères. Merci, au revoir.
Qui a inventé les réverbères? Agnès Beauvais, vous êtes documentariste et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Lumière sur la ville » chez François Bourin et Arte Éditions. Qui a inventé les réverbères, Agnès?
Alors, les réverbères, il faut entendre par là la lanterne, en fait, la lanterne à huile qui est dotée d'un réflecteur qui renvoie la lumière. Et D'accord. C'est cela qu'on appelle le réverbère. Alors, l'inventeur du réverbère, c'est un monsieur qui s'appelle Bourgeois de Châteaublanc. Et il a nommé son invention du nom de cette pièce, en fait, qui renvoie la lumière.
Réverbération.
Qui renvoie la lumière de la flamme de ce bec d'huile vers le sol. Et il invente ce réverbère avec l'un de ses collègues qui est un abbé, l'abbé Prégnier. Et ils en font une démonstration en 1745. Mais c'est une démonstration qui n'intéresse personne sauf un poète qui va écrire un poème sur cette brillante invention. C'est comme ça qu'on en a gardé la trace. Mais il faut attendre que monsieur de Sartine, qui est le préfet de police de l'époque, lance un grand concours pour moderniser l'éclairage. Parce qu'à ce moment-là, on éclairait les rues de Paris avec des chandelles. Et la chandelle, ça coûte très 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 cher.
En cire.
Donc, alors, je pense pas qu'elles étaient vraiment en cire. Je pense qu'elles étaient, c'était du suif, c'est-à-dire de la graisse animale. Mais c'était des chandelles d'extrêmement bonne qualité parce qu'elles étaient à toutes les étapes vérifiées par les agents de la police. Mais ça coûte très très cher. Et du coup, monsieur de Sartine lance un grand concours via l'Académie des sciences, qu'il va doter d'une somme formidable, c'est à peu près 1000 écus, donc c'est une très grosse somme, pour trouver un nouveau moyen d'éclairer les villes en conjuguant économie et facilité de service. Alors, la première année, le concours ne donne rien, et la somme est doublée. Et là, il a beaucoup de réponses. Alors, il a le jeune Lavoisier qui se distingue par un mémoire sur la combustion, mais qui n'est pas la réponse au concours, mais néanmoins qui va recevoir une médaille d'or. Il y a un autre inventeur qui a inventé une très belle lanterne à huile, mais sans réflecteur, sans réverbère, monsieur Bailly. Et il y a monsieur Bourgeois de Châteaublanc qui revient avec son réverbère, et surtout qui est très malin parce qu'il va s'associer avec un financier et avec un haut fonctionnaire de la ville de Paris pour proposer ses services et remplacer les vieilles lanternes, et il va gagner ce marché.
Donc il n'aura pas empoché les 2000 écus, ça c'est Lavoisier qui les a
eus. Pas du tout, non. Lavoisier a eu une médaille d'or, et ensuite les 2000 écus ont été partagés entre Bailly et Bourgeois de Châteaublanc. Donc il a touché, on va dire, 1000 écus.
Pas mal.
Mais surtout, il s'est dit qu'il fallait qu'il remporte le marché de la ville de Paris. Donc il est allé chercher des atouts, et ces atouts les a trouvés en la personne d'un financier, qui est Tourtille Sangrain, qui va monter l'entreprise qui va illuminer la ville de Paris pendant les 20-30 prochaines années. Et pas que la ville de Paris d'ailleurs, presque toute la France. Et puis un haut fonctionnaire de la ville de Paris qui évidemment va s'intéresser à leur dossier.
Est-ce que vous savez, Agnès Beauvais, à peu près en quelle année il y a eu finalement des réverbères dans tout Paris?
Alors, les réverbères s'installent à partir du moment où ils gagnent le concours. Le marché, je crois que c'est 1698, mais vraiment les réverbères installés. On trouve une trace dans le journal de Hardy, qui est un libraire parisien. C'est vraiment 1770.
Oh, voilà quelque chose qui aurait bien plu à Jérôme Bonaldi, ce journaliste qui est fou d'invention, qui était l'invité de Sonia De Villers il y a quelque temps et qui parlait avec des trémolos dans la voix du concours L'Épine, une invention pour éclairer Paris. Vous pouvez retrouver cette émission de Sonia De Villers et de Jérôme Bonaldi sur franceinter.fr, franceinter.fr aussi bien sûr pour réécouter ces petits bateaux. Vous pouvez aussi venir faire un tour sur le site des Petits Bateaux. Nous vous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, Marjorie Devoucoux, Pauline Laverdure, Jean-Baptiste Audibert, Eliane Girard et Noël Bréham. Et je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.